les questions qui sont posées par les nanotechnologies sont pour beaucoup pas spécifiques aux nanotechnologies. Ce qui est spécifique sont deux choses. C'est d'abord que la matière donc, a des propriétés nouvelles, et ensuite c'est qu'on peut, faire un tas de choses avec la possibilité de manipuler l'infiniment petit comme ça, et de coupler du vivant et de l'inerte ensemble, etc. Donc pour ce qui est des propriétés spécifiques des nanomatériaux, on en distingue trois principalement. D'abord, on s'est aperçu quand on met des nanoparticules les unes à côté des autres, elles s'agrègent entre elles, ce qui n'est pas très intéressant en soi, si ce n'est qu'on parlera tout à l'heure de nanotoxicologie, et que ça a un effet, merci. C'est un effet à prendre en compte dans la nanotoxicologie. La deuxième chose, c'est qu'elles sont très réactives, elles sont plus réactives que les mêmes éléments à l'échelle macro, si on peut s'exprimer comme ça. Ça vient du fait que plus une particule est petite, plus elle a une proportion d'atomes en surface qui est élevée. Donc par exemple, une nanoparticule de 30 nanomètres aura 5% d'atomes en surface, quand une nanoparticule de 3 nanomètres en aura 50%. Et ce sont ces atomes en surface qui interagissent avec leur environnement et qui confèrent à la particule ses propriétés et donc sa toxicité éventuelle. Et puis le troisième effet qu'on leur connaît, ce sont les effets quantiques, enfin la troisième spécificité des nanos, sont les effets quantiques, et c'est ça qui fascine surtout les chercheurs, c'est qu'on s'aperçoit qu'à cette échelle, la matière répond plus aux lois de la physique classique, mais aux lois de la physique quantique. Et là, on voit apparaître des propriétés nouvelles, des propriétés électriques, magnétiques, optiques, etc., qui étaient jusque-là inconnues de la matière à cette échelle. Donc par exemple, et ces propriétés vont complètement dépendre de la nature, de la taille et de la forme. Si vous prenez deux nanoparticules d'argent qui n'ont pas la même forme ou pas la même taille, vous n'aurez pas les mêmes propriétés. Ça peut vraiment varier à quelques nanomètres près ou à une facette de plus près. En général, ces effets quantiques arrivent souvent arrivent en deçà de 30-40 nanomètres. On dit qu'une nanoparticule c'est jusqu'à 100 nanomètres, mais réellement ces effets particuliers arrivent bien en deçà. Donc les propriétés et la toxicité dépendent de la nature, de la taille et de la forme. Et ça, c'est important parce que c'est du coup très compliqué à évaluer en termes de toxicité par la suite. Donc ça, c'est typiquement ce qu'étudient les chercheurs en nanosciences, qui sont des physiciens ou des chimistes. Là où ça se complique, c'est que sous l'appellation nano, que ce soit au niveau industriel, au niveau des budgets de recherche ou quoi au caisse, c'est pas tellement seulement ça qu'on retrouve, c'est en fait ce qu'on appelle les technologies convergentes. Parce que le fait de manipuler la matière à cette échelle, ça intéresse un tas de champs disciplinaires différents, dont les biotechnologies, dont l'informatique, vous l'avez vu avec les puces RFID, vous avez vu, à un moment, il y a un doigt comme ça avec une petite poussière. C'est la plus petite puce RFID qu'Hitachi a réussi à faire. Donc ça, c'est RFID, à la base, c'est de la micro-technologie, c'est pas de la nano. Mais on va de plus en plus petit, et Hitachi travaille en ce moment à une puce RFID qui serait de la taille d'un globule rouge, donc entre 5 et 7 microns. Donc ça, c'est la miniaturisation qui intéresse l'informatique. Et puis, tout ça étant potentiellement applicable à l'homme, on parle des sciences cognitives et de la génétique également. Donc vous trouvez deux acronymes les plus courants pour parler des technologies convergentes. C'est NBIC, Nano Bio Info Cognitif, ou BANG, en anglais c'est Bits, Atomes, Neurones et Gènes. Et là, à partir de ces 4-5, on va dire, catégories de disciplines, on retrouve un panel de champs disciplinaires qui sont plus des champs d'ingénierie que des champs scientifiques, dans lesquels on retrouve de la nanoélectronique, de la nanomédecine, des bio-nanotechnologies, bioinformatique. On peut parler de la biotechnologie aussi, c'est pareil, sous les appellations biotechnologie, on peut très bien retrouver du bio-nano en fait, enfin, il n'y a pas de frontière fixe entre les biotechnologies et les nanotechnologies, de la bio-ingénierie, de la neuro-ingénierie, de la neuro-informatique, etc., etc. On peut faire un tas de choses différentes. Donc c'est extrêmement compliqué à comprendre et je pense que les scientifiques eux-mêmes peinent à comprendre ce qui se passe réellement. Peut-être je vais parler un petit mot des bio-nanotechnologies qui sont de plus en plus subventionnées dans les nanotechnologies, et notamment de la biologie de synthèse qui est une discipline qui vise à recréer du vivant. Il y a 2 ans à peu près, un scientifique qui s'appelle Craig Venter a pris une bactérie dont le génome était très simple, il lui a retiré son patrimoine génétique, il lui a regreffé un patrimoine génétique entièrement synthétisé par informatique. Donc ça va au-delà des OGM qui modifient des séquences, là on réimplante un patrimoine nouveau, et la cellule en l'occurrence là était viable. Après 15 années d'essais en laboratoire, ils ont réussi à faire une cellule qui était viable, qui s'est reproduite par elle-même. Donc là, c'est le même vocabulaire que pour les nanos, sauf qu'on ne parle pas de briques élémentaires, on parle de biobriques, et on ne parle pas de design de la matière, on parle de design du vivant. Donc, déjà à ce stade, si je vous demande ce que sont les nanos, c'est un peu compliqué d'y répondre. Vous voyez bien, est-ce que c'est la taille? Est-ce que sont les propriétés? Est-ce que sont les applications qu'on peut faire avec? Est-ce que c'est de la génétique? Est-ce que c'est de la neuroscience? C'est un petit peu... Déjà, la visibilité n'est pas terrible, rien qu'au niveau des définitions et de ce qu'on entend sous l'appellation nano. Alors maintenant, on va aborder un peu le contexte de développement de ce que j'appellerais maintenant les NBIC, pour être un peu plus honnête, puisque on ne peut pas parler que de nano. Bon, d'abord, les NBIC, c'est une bulle spéculative financière qui est très forte. On a commencé donc les premières manipulations de la matière en 81 à cette échelle, et dès 85-90, les marchés ont commencé à s'en emparer, les industries ont commencé à se créer. On suivit les impulsions politiques assez rapidement. Le Japon est le premier pays qui a lancé un programme national de nanotechnologie en 91, suivi de près par le Vietnam, contre toute attente. Ce n'est pas les États-Unis qui sont juste derrière. Les États-Unis sont arrivés en 2000 avec un plan national qu'on appelle National Nanotechnology Initiative, le NNI, qui marque un peu le début de la recherche mondialisée sur les nanos, quoi. En Europe, donc, c'est vers 2000-2002 qu'on a commencé à s'y mettre. La France est le deuxième pays européen après l'Allemagne en termes de production scientifique sur les nanos. Mais elle héberge le plus gros centre de micro et nanotechnologie d'Europe, qui est un centre européen, qui s'appelle Minatech à Grenoble, qui a été ouvert en 2002. Alors, je ne vais pas vous refaire tous les programmes et les impulsions de politiques qui ont été lancées pour favoriser la recherche en nano. Ce qui est sûr, c'est un tas de restructurations de laboratoires se sont faites pour que les physiciens et les chimistes puissent travailler ensemble, par exemple, avec des biologistes aussi, avec des ingénieurs. Et ce qui marque, à mon avis, aussi le début, c'est pas tout à fait en lien avec les nanos, mais ça replace les choses dans leur contexte. En 2005, on a créé l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, qui marque vraiment le début de la fin, on va dire, pour la recherche publique française, le début de la privatisation, le début de la diminution des budgets et donc de la dépendance des chercheurs aux industriels pour avoir des budgets pour pouvoir faire de la recherche, et aussi de l'orientation de leur recherche. Et d'une recherche qui se veut de plus en plus appliquée. Donc quand on regarde les dotations de l'ANR en termes de nano ou de NBIC, on voit que c'est la thématique principale qui est encouragée, y compris dans les sciences humaines et sociales, où un certain nombre de sociologues ou de philosophes en ce moment dénoncent le fait que on insère dans chaque programme de recherche comme ça sur des applications NBIC, un éthicien ou un sociologue, ce que PMO appelle la sociologie de l'acceptabilité d'ailleurs, qui vient un peu cautionner les recherches et qui n'est pas du tout indépendant du projet de recherche. C'est-à-dire qu'un éthicien qui vient travailler là-dessus, il est jugé parti, il fait partie du progrès de recherche. Normalement, l'éthique, c'est un regard extérieur sur ce qui se fait, quoi. Donc même les sciences humaines sont embarquées dans cette aventure nano. Donc au-delà des impulsions politiques, il y a évidemment des intérêts militaires qui sont très forts. Il y a une course mondiale à l'armement et à l'amélioration du soldat, par exemple. En France, c'est le félin, le fantassin à équipement et liaison intégrée. On l'appelle le soldat du futur français. Chaque pays européen a son soldat du futur. Il est tout à fait actuel. On est en train d'équiper les régiments d'infanterie avec ce genre d'équipement, qui ne sont pas des hommes-machines encore, qui sont des soldats qui sont équipés de matériaux ultra perfectionnés, de systèmes de communication très réduits, avec des matériaux très légers qui ont des propriétés nouvelles, etc. Mais la volonté, un peu partout Et le MIT, le Massachusetts Institute of Technology en Californie, est le précurseur là-dedans. La volonté, c'est d'aller plus loin et de faire un soldat du futur qui soit, à l'intérieur de lui-même, plus résistant, qui puisse avoir des systèmes de réparation tissulaire super efficaces en cas de blessure sur un champ de combat, avoir une vision élargie. C'est l'homme bionique, hein. C'est tout à fait ça. Et en France, il se trouve que c'est le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et depuis 2010 aux énergies alternatives, qui est l'acteur majeur, qui se positionne en tout cas comme l'acteur majeur de la recherche en nanotechnologie et en NBIC en général. Le CEA, c'est l'organisme de recherche public qui a le plus d'argent en France, bien plus que le CNRS ou l'INSERM ou tout ça, même s'il travaille en partenariat avec tous ses laboratoires et les universitaires. Et le gros de la recherche fondamentale, en fait, en nanosciences, vient des laboratoires universitaires, mais qui travaillent avec le CEA, qui a les plus gros plateaux techniques, donc ils sont dépendants des plateaux techniques du CEA. Pour vous donner juste des chiffres, le budget nano du CEA, en 2001, c'était 16 millions d'euros, en 2005, c'était 68 millions d'euros. J'ai pas le budget aujourd'hui, mais ça augmente de façon très importante. Et il dispose de trois directions, une direction des applications militaires avec 5 sites, une direction des sciences de la matière avec 4 instituts et une direction des sciences du vivant avec 8 instituts. Dans chacune de ces directions, vous retrouvez du NBIC à bloc, je dirais, et notamment dans ce qui est des sciences du vivant, beaucoup d'applications médicales, en tout cas dites comme telles. Dans le documentaire, on vous parlait de Clinatech, qui est donc au sein de Minatech, qui a ouvert cette année, une clinique qui va commencer, ils l'ont déjà fait depuis quelque temps sans autorisation, mais ils officialisent cette année les recherches sur les interfaces cerveau-informatique. Alors, je ne sais pas où pièce et main-d'œuvre a trouvé qu'on essayait de manipuler les gens avec ça, peut-être que c'est vrai, mais ce qu'ils disent en tout cas officiellement, c'est des neurostimulations pour aider les personnes âgées parkinsoniennes ou les gens qui sont atteints de troubles obsessionnels compulsifs, des choses comme ça. C'est des applications dites médicales, hein. Mais le CEA, c'est l'armée, donc les applications dites médicales concernent effectivement, évidemment, sont des recherches qui intéressent... La recherche duale. Voilà, exactement, c'est la recherche duale. Les applications peuvent être tout à fait multiples. Et puis le CEA travaille, donc ils ont par exemple, Clinatech, ce serait une clinique, un genre de clinique hors milieu hospitalier, c'est assez particulier. Mais ils ont déjà à Saclay un énorme programme qui s'appelle Neurospin, un gros plateau technique avec des imageries cérébrales de pointe, etc. Et ils travaillent beaucoup aussi sur les biopuces à ADN dont on parlera tout à l'heure. Donc pour ce qui est des applications industrielles au sens large, je vous avais prévu des diapos pour vous montrer un peu tout ce qu'il y avait en termes de développement industriel. Je vais vous en citer quelques-uns déjà en termes d'industries qui sont concernées. Alors en France, il y a à peu près 300 entreprises qui sont concernées, dont 60% sont des PME, mais 15% sont des filiales de grands groupes étrangers et 18% sont des filiales de grands groupes français. Et il y a un certain nombre de multinationales telles que EADS, Rodia, Arkema, ST Microelectronics, L'Oréal, évidemment, Saint-Gobain, Airbus, Air Liquide, etc. On retrouve les grosses, même à l'échelle mondiale, on retrouve les grosses multinationales, évidemment, dans ce genre de recherche, qui ont des activités de recherche et développement importantes. Donc dans les secteurs concernés, on retrouve essentiellement les technologies de l'information et des communications. Donc vous avez un exemple avec les RFID, mais il y a un tas de choses, hein. Les iPhones, c'est de la miniaturisation électronique, des nanocapteurs, des revêtements. On essaye de faire aussi des... On peut essayer d'utiliser la conductivité de l'ADN, par exemple, dans un ordinateur. On fait des recherches pour, et là ça rejoint ce que disait pièce et main d'œuvre, on implante des neurones de rat, par exemple, sur des transistors, et on se sert de l'influx nerveux du neurone pour faire commander le transistor. Donc ça, c'est des mélanges de vivant et d'informatique. Donc les industries militaires, évidemment, on en a parlé. En matière de santé, c'est le domaine de la santé, de la nanomédecine, comme on dit, ce qui ne veut absolument rien dire, c'est des tas de domaines différents, et celui qui est le plus montré en avant comme étant prometteur, évidemment, enfin on se sert toujours d'arguments de ce style-là, et ce qu'on met le plus en avant dans la nanomédecine, c'est la vectorisation des médicaments. Alors, pour vous expliquer un peu, quand une nanoparticule pénètre dans le corps d'un individu, ou d'un rat, puisqu'on essaye sur les rats, pour des raisons qu'on a du mal à comprendre et à prédire, elle peut être éliminée sans souci par les urines, etc., faire aucun effet. Elle peut aussi avoir une affinité pour tel ou tel organe ou telle cellule. Ce qui serait très intéressant en termes de cancérologie, c'est-à-dire qu'on pourrait coupler des chimiothérapies sur une nanoparticule et l'envoyer directement sur la cellule tumorale au lieu de balancer des chimiothérapies qui bousillent toutes vos cellules dans leur ensemble, quoi. Donc ça, c'est la vectorisation des médicaments. Dans la réalité, moi j'ai lu pas mal d'études, de résumés, de recherches sur les médicaments et les nanoparticules, notamment d'argent. Il est question d'utilisation dans bien d'autres domaines que la cancérologie et ça pose un certain nombre de questions en termes d'interaction et déjà en interaction, parce que la nanoparticule peut être vecteur donc d'un produit chimique, donc d'un médicament ou d'un polluant aussi dans l'organisme, dans un écosystème ou dans un organisme aussi, peut être aussi inhibiteur d'un produit chimique. Il peut capter le produit et l'inhiber. Donc déjà, à l'heure actuelle, quand vous prenez quelques médicaments dans la journée, on ne peut pas prévoir les effets, les interactions entre plusieurs médicaments. Au bout de là, 3 ou 4 médicaments par jour, vous ne pouvez pas prévoir. Si en plus on couple avec des nanoparticules qui peuvent inhiber ou vectoriser à des endroits qu'on ne prévoit pas ou qu'on veut pas envoyer la molécule, ça peut poser quelques soucis. Alors il est question aussi de prothèses avec des matériaux, des nanomatériaux résistants, antibactériens, etc. Et puis les fameuses biopuces à ADN. Alors les biopuces à ADN, on appelle ça aussi les laboratoires sur puces, sont des laboratoires miniaturisés qui permettent par exemple à l'heure actuelle, si certains d'entre vous se sont fait dépister du VIH il n'y a pas très longtemps, maintenant on fait ça avec une goutte de sang, on prend une goutte de sang de votre doigt, on le met sur une bandelette et c'est une miniaturisation qui vous dit instantanément si vous avez le sida ou si vous ne l'avez pas. Donc probablement qu'en tant qu'infirmière, j'aurai à manipuler ça dans peu de temps, on aura pu à passer par une prise de sang et un laboratoire pour vous dire qu'est-ce que vous avez comme virus ou comme bactérie dans le sang, etc. On peut aussi s'en servir en environnement. On peut détecter des produits chimiques dans l'environnement très facilement avec ce genre de procédé. Là où ça pose un peu plus question, c'est qu'on peut aussi lire votre génome très rapidement et de façon peu coûteuse, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et il est prévu dans les années à venir que ça puisse même être en vente libre en pharmacie, que vous puissiez faire votre lecture de votre carte de vos susceptibilités génétiques, par exemple, à telle ou telle maladie. Alors, il y a déjà des entreprises américaines qui proposent ça. Vous les trouvez sur Internet. Vous les trouvez sur Internet. Vous pouvez... ce qu'elle propose, c'est que vous pouvez envoyer la petite culotte de votre femme pour savoir si elle vous a trompé, ou un cheveu de votre enfant pour savoir si c'est vraiment votre enfant. Mais elle propose aussi des tests de susceptibilité de, par exemple, vous avez un enfant, puis vous voulez savoir s'il est à risque. Pour ceux qui ont vu Bienvenue à Gattaca, c'est exactement ça. On va vous dire, 60% de risque de faire une maladie cardiovasculaire, 30% de risque de faire un diabète, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la médecine prédictive, ou médecine du bien portant. D'après les entreprises du médicament, le bien portant à risque, donc c'est-à-dire vous et moi, on est tous à risque, c'est un marché qui est assez lutté. Et puis la deuxième chose, ce serait la médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'avant de vous donner une molécule thérapeutique, on va essayer de voir si vous avez une susceptibilité génétique à cette molécule pour pouvoir cibler mieux les thérapeutiques. Ce qui dans l'idée est pas mal, plutôt que de donner des traitements qui vont pas trop marcher, sauf qu'on imagine mal que les industries pharmaceutiques vont créer un médicament pour chaque habitant de la planète, en fonction de son patrimoine génétique. Ça paraît pas tellement réalisable. Alors en imagerie médicale, ça a pas mal d'applications, on peut voir mieux, il y a des marqueurs qui sont plus performants. Et puis on parle de toute la sphère de la télémédecine, alors là vous en avez vous avez un peu entendu la pub d'IBM là, qui disait à l'hôpital, le patient, machin, nan, nan, on pourrait avoir une... Les entreprises du médicament sont en train d'imaginer qu'on puisse mettre des capteurs, effectivement des nanocapteurs avec un système de reconnaissance RFID, dans le corps, par exemple, d'un diabétique qui pourrait en instantané lire le taux de sucre. Donc si le diabétique a un peu trop de sucre, l'information passe par un centre de santé qui est proche, qui le rappelle à l'ordre en lui disant « attention, vous avez un peu trop de sucre ». Ça pourrait être aussi pour n'importe qui, en fait. Si, attention, votre tension est trop haute, attention, vous avez trop de cholestérol, attention, ceci, cela. Et puis il y a toute la sphère de ce qu'on appelle les gérontotechnologies, qui sont des technologies appliquées à la personne âgée isolée, pour qu'elle soit moins isolée, Et par exemple, il est question de mettre des capteurs dans les objets de la vie courante de la personne âgée pour voir si elle a toujours des bonnes capacités de préhension, si voilà. Bon, après, il y a tout un tas de robotique de compagnie, on va dire, ou d'accompagnement. Il y a même des recherches sur des robots infirmiers, donc je serai peut-être au chômage bientôt. Donc voilà pour ce qui est de la santé globalement, mais on y reviendra un peu tout à l'heure. Donc je vais peut-être vous le dire en fait maintenant. Le LEM, les entreprises du médicament, c'est donc le regroupement des multinationales de santé, a édité il y a 2 ans à peu près un livre blanc de ce que sera la santé en 2025. Et je vais vous lire quelques mots qui viennent dans ce rapport justement. Alors on parle de nano-usines, de nano-capteurs, de télémédecine, de médecine régénératrice, de pilules intelligentes, de biologie de synthèse. Ils font toute une page dessus en disant que l'homme s'adaptera très bien à ce nouveau biotope. Bon, ils évoquent vite fait le clonage humain en disant que c'est inéluctable, mais que ça chamboulera rien. La médecine du bien portant. Et puis ils prennent des termes comme hygiénisme modernisé ou démocratie sanitaire. Voilà. C'est assez joli. Tout ça sur fond de diminution du coût de l'aide de la sécurité sociale et augmentation des assurances privées, parce que le discours industriel et politique là-dedans, c'est de dire « mais ça va être génial, ça va coûter pas cher, puisqu'on pourra prédire, on n'aura plus grand-chose à faire. » Mais en même temps, il faudra quand même, c'est du high-tech, donc il faudra quand même supporter le coût. Donc la société devra supporter le coût de cette médecine. Voilà. Alors vous voyez bien que les sujets sont... complexes, les applications sont complexes. Ah non, pardon, j'ai oublié de vous citer le reste dans les industries. Donc les cosmétiques sont concernés, on a parlé des dioxydes de titane dans les crèmes solaires, mais il y a un tas de... Par exemple, les nanoparticules d'argent, on en met dans des dentifrices, dans des biberons, dans des chaussettes, enfin on en met vraiment partout, dans des détergents, c'est vraiment de partout. L'industrie chimique est en train de se substituer complètement, à une industrie de nanotechnologie. Dans les textiles, les transports évidemment, l'aéronautique, l'aérospatiale notamment, on peut faire des matériaux très légers, des laboratoires justement pour aller tester ce qui se passe sur une autre planète en instantané, des choses comme ça. L'électroménager, le BTP, l'alimentation avec les nano-aliments, c'est-à-dire souvent les additifs, il y a déjà quelques additifs manifestement qui sont nano, c'est un peu compliqué de le savoir puisqu'il n'y a pas d'obligation pour les industriels encore de le dire, mais des modes de conservation, de traçabilité, RFID, des emballages, tout ça. Donc la complexité est pas évidente et les enjeux sont multiples, financiers, politiques, militaires. Et puis il y a des enjeux qui nous concernent tous, pas qu'au niveau économique, mais au niveau donc de la santé. Donc vous voyez qu'on en met partout, on réglemente pas grand-chose pour le moment, on reviendra tout à l'heure sur la réglementation, et se pose la question de la nanotoxicité. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de nanotoxicité. La question se pose de la même façon pour les produits chimiques, en fait. Hein. On est exposé à... Il y a à peu près 100 000 produits chimiques sur le marché européen. Il y en a 1500 qui ont été évalués dans leur toxicité. Bon, donc, la nanotoxicité, on dit on n'en sait rien. Les produits chimiques aussi, on pourrait dire on n'en sait rien. Le problème de la nanotoxicité, c'est qu'il faut inventer une nanotoxicologie. C'est-à-dire que les instruments d'évaluation de toxicologie traditionnelle ne sont pas forcément pertinents pour évaluer le comportement d'une nanoparticule dans le corps humain. Donc c'est un tas de choses à élaborer et qui sont pas encore tout à fait élaborées. On a du mal à tester une nanoparticule. On a du mal déjà à la retrouver quand vous avez une nanoparticule métallique dans un foie, par exemple. Essayer de la retrouver au microscope électronique, c'est une aiguille dans une meule de foin. Donc faut déjà la retrouver. Ensuite, faut essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la cellule, etc. Alors il y a eu un tas d'études de nanotox qui ont été faites, un tas de débats aussi. Mais il y a quand même une certaine littérature et on voit dans énormément de cas, dans des études notamment in vitro, de lésions de la cellule, de lésions de l'ADN. Elles sont hyper réactives. Quand vous avez une nanoparticule métallique qui pénètre la cellule met en place un phénomène de détoxification comme elle le ferait pour une bactérie ou un virus, sauf que c'est pas un virus, c'est un métal. Donc tout ce qu'elle met en place se retourne contre la paroi cellulaire, en fait, et fait des lésions de la paroi cellulaire, etc. Alors il y a beaucoup d'autres choses que la cancérogénèse à traiter en termes de toxicité. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui pose surtout question pour le moment, c'est déjà de protéger les travailleurs qui sont de plus en plus exposés. On ne sait pas comment les mesurer dans l'atmosphère à un poste de travail. Il faudrait élaborer un outil pour chaque type de production, puisque les propriétés dépendent complètement de la forme, de la taille, de la nature. Donc c'est pour le moment, c'est techniquement faisable, mais ça demanderait un temps et un investissement que personne ne prend. Il y a un gros manque d'informations aux médecins du travail aussi. Ils sont très en demande de ça en ce moment, mais ils n'ont aucune formation, ils n'en savent rien. Bon, évidemment, il y a des implications pour les consommateurs, dans la mesure où il n'y a pas encore d'obligation d'étiquetage. En recherche biomédicale non plus, on n'oblige pas les industriels à dire s'ils mettent du nano ou pas du nano dans leurs produits. Donc les instances qui sont chargées de donner un avis décisionnel sur les recherches biomédicales ne sont à l'heure actuelle pas en capacité de donner un avis éclairé sur une recherche biomédicale. Si l'industriel veut faire du nano-argent, il ne dira pas forcément que c'est du nano-argent, il peut dire que c'est de l'argent et la question se pose pourtant très différemment. Évidemment, en environnement, la question se pose également. Donc je vous ai dit qu'une nanoparticule peut vectoriser un produit chimique ou l'inhiber. Donc en environnement, on appelle ça l'effet cheval de Troie. En médecine, on appelle ça la vectorisation. En environnement, c'est l'effet cheval de Troie. Donc on ne sait pas très bien comment elles peuvent interagir avec les autres produits chimiques dans l'environnement et les vectoriser d'un endroit à un autre, etc. Et puis la question des bio-nanotechnologies n'est pas soulevée, de même qu'un OGM n'est pas un polluant, une bactérie n'est pas considérée comme telle. Par contre, les bio-nanotechnologies, notamment la biologie de synthèse, ça reste pour le moment un laboratoire, hein, c'est confiné. Mais c'est des budgets qui explosent de façon exponentielle et il est très improbable qu'il n'y ait pas de contact du tout entre un organisme qui sera créé comme ça et l'environnement extérieur. Donc les chercheurs qui travaillent dessus essayent d'élaborer des procédés pour que si la bactérie est en contact avec notre environnement naturel, elle puisse ne pas interagir avec notre environnement. Ce qui est très très aléatoire parce que le vivant c'est très aléatoire. Donc ça c'est pour l'aspect toxicologique. Et puis un deuxième aspect qui est à prendre en compte, qui est en tout cas très très important, qui est l'aspect idéologique. Parce qu'au début des années 80, donc quand on a commencé à manipuler la matière à cette échelle, à l'Université de Californie, il y a un petit groupe de scientifiques et d'ingénieurs qui se sont réunis et qui se sont dit « c'est génial tout ce qu'on pourrait faire sur le corps humain et sur l'être humain avec ces technologies. On peut aller très loin dans l'interface homme-machine, on peut prendre des nerfs, on peut les coupler avec un ordinateur, on peut faire un homme bionique, etc. » Et puis ce mouvement, c'est un peu... a pris de l'ampleur et ça s'appelle le transhumanisme. Et c'est devenu maintenant un mouvement international. Enfin, il y a une association internationale transhumaniste qui s'appelle H+, Human Plus, c'est l'homme augmenté. Il y a plein de sous-courants différents, par contre, mais tout le monde est réuni autour d'une charte transhumaniste qui, d'une part, fait du lobbying pro-recherche en NBIC pour qu'on aille plus loin et plus vite. Ce sont des gens qui disent que l'eugénisme, c'est de la foutaise, hein, qui refusent complètement cette notion d'eugéniste. Et donc, ils disent qu'il faut aller plus loin dans l'intégration de ces NBIC dans l'être humain, qu'il faut parvenir à un être qui s'appelle un post-humain, qui serait un mi-homme, mi-machine, qui souffrirait plus, qui vieillirait plus, qui mourrait plus éventuellement, ce serait bien, et dont les capacités physiques et mentales seraient augmentées. Alors ce mouvement, il fait beaucoup rire en Europe, il n'est pas très pris au sérieux, parce qu'on se dit c'est de la science-fiction, etc. C'est un gros mouvement, avec des gens qui sont très influents, qui intéressent énormément, encore une fois, les industries militaires, les industries pharmaceutiques, et qui influent sur les lois de bioéthique, en tout cas aux États-Unis. En France, on a l'Association française transhumaniste, qui est association loi 1901 depuis 2 ans à peu près, et qui participe aussi au débat de bioéthique, hein, qui n'est pas du tout mise à l'écart. Donc, l'Union européenne s'est positionnée à l'encontre du transhumanisme en disant qu'il faut utiliser les NBIC non pas pour améliorer l'humain, mais pour des améliorations sociétales, ce qui revient à peu près au même en fait. Il n'y a pas vraiment de différence. Voilà, donc je vais pas aborder les dérives sécuritaires, vous avez eu le documentaire de Pièce et Main d'œuvre qui explique ça bien mieux que moi. Pour ce qui est des applications militaires, il y a un rapport d'Antonin Regnault qui est très intéressant, de l'Observatoire des transferts d'armement, mais il n'y a pas grand-chose. C'est toujours, bon, les recherches militaires, c'est un peu compliqué de savoir exactement ce qui se passe. Et puis vous avez ETC Group, qui est un groupe canadien, qui fait pas mal de travail sur les nanos, notamment, et qui a fait un très bon rapport sur les nanobrevets et les pays du Sud, et les implications pour les pays du Sud, puisque... hier, Christian Velot nous parlait du brevet sur le vivant avec les OGM. Dans les nanobrevets, on n'est pas dans les brevets sur le vivant, on est dans les brevets sur tous les constituants de la matière, quelle qu'elle soit, quoi. Donc ça va vraiment encore plus loin, et ça fait des brevets qui sont aberrants, qui se contredisent les uns les autres, qui en plus n'ont pas vraiment de légitimité et d'application possible au niveau légal, quoi. Donc tout ça, c'est une recherche qui est basée sur les applications et non pas sur les connaissances fondamentales. Donc on manque quand même assez cruellement de connaissances et de recul vis-à-vis de ces technologies qu'on applique très rapidement. Et au niveau législatif, ça va extrêmement lentement. Pour le moment, il n'y a rien, tout simplement. C'est le vide intersidéral. Et pour cause, en fait, la Commission européenne a donné une définition du nanomatériau seulement en octobre 2011, donc l'année dernière. Donc tant qu'il n'y a pas de définition, on ne peut pas légiférer grand-chose. Bon, la définition a fait débat, évidemment. Donc là, on est en train de bouger un petit peu les choses. La loi Grenelle 2 en France a donné naissance à une déclaration obligatoire des nanomatériaux qui sera prévue pour 2013. Les industriels devront préciser à l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire de l'environnement, qui manipule ou qui produise ou qui fabrique des nanoproduits. C'est tout. On leur demande pas d'évaluer la toxicité ou quoi. On leur demande juste de dire à l'ANSES qu'ils en font. Bon, à partir de 100 grammes par an. Au niveau de l'Europe, il y aura d'ici 2013-2014 un certain nombre de règlements sur les cosmétiques. L'étiquetage nano, en tout cas, sera prévu sur les cosmétiques en 2013. L'étiquetage nano sera prévu sur les produits agroalimentaires aussi d'ici fin 2014 et sur les biocides contenant des nanomatériaux d'ici 2013 également. Alors, en fait, peut-être un petit aparté, vous avez sûrement entendu parler de la directive REACH qui est sortie au 1er janvier 2007, qui a pris effet à ce moment-là, qui est une directive qui oblige les industriels, là on parle des produits chimiques, hein, qui oblige les industriels à prouver la non-toxicité de leurs produits chimiques à partir du moment où ils les mettent sur le marché. La directive REACH, depuis qu'elle est sortie, il est question d'y inclure les nanos, sauf qu'elle se fait sur une condition de tonnage, ce qui n'est pas du tout pertinent pour les nanoparticules qu'on ne peut pas évaluer en tonnage. Donc depuis le début, on demande à ce que les nanos soient inclus dans REACH. Là, le fait que la définition des nanomatériaux déjà soit arrivée va probablement... on va élaborer des façons d'inclure les nanos dans REACH d'ici un ou deux ans. Mais ce sont des lois qui, on ne rentrera pas dans les détails, mais qui sont pas tout à fait satisfaisantes pour plein de raisons, mais bon, ça bouge un peu. Voilà, donc je vous laisse maintenant me dire ce que vous pensez de cette balance bénéfice-risque, si vous en avez une idée, et poser les questions que vous voulez.